VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 11 septembre 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Les États-Unis commémorent le 19e anniversaire des attentats du 11 septembre qui avaient fait près de 3000 morts. Les incendies dans l'ouest des États-Unis ont fait une quinzaine de morts et plus de 500 000 personnes évacuées. La Tunisie, frappée à son tour par des inondations qui ont fait au moins 6 morts sur le continent, 200 personnes au moins ont perdu la vie selon les Nations Unies. Et puis au Mali, les concertations sur la transition se poursuivent sous l'égide des militaires au pouvoir. Également dans cette édition du Monde Aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. L'Amérique commémore le 19e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York et au Pentagone, ici à Washington. Le président Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden se rendent séparément en Pennsylvanie où un autre avion s'est écrasé parce que ses passagers ont résisté aux pirates de l'air. Le point avec Claire Mongibourg.
C'est au mémorial de Shankville en Pennsylvanie où le vol 93 détourné par les terroristes s'est écrasé dans un champ. Le président Donald Trump a pris la parole ce matin.
Aujourd'hui, nous rendons hommage à leur sacrifice et nous faisons le deuil de ces quelques 3000 belles âmes précieuses qui nous ont été enlevées le 11 septembre 2001.
Le président et la première dame Melania Trump ont écouté en silence les noms des 40 passagers et membres d'équipage tués à bord du vol 93 avec les sons de deux cloches après lecture de chaque nom. Joe Biden se rend lui aussi à Shankville, mais dans l'après-midi, le candidat démocrate a assisté à la commémoration au mémorial Ground Zero à New York en compagnie du vice-président Mike Pence. En raison de la pandémie du coronavirus, les deux hommes se sont salués d'un coup de coude.
L'effet immédiat des attentats du 11 septembre 2001 a été le déclenchement de la guerre en Afghanistan. 19 ans après, le secrétaire d'État Mike Pompeo est arrivé ce vendredi à Doha pour participer au lancement demain samedi des négociations entre les talibans et le gouvernement afghan. M. Pompeo a déclaré que les discussions seront difficiles entre Afghans, mais c'est aux Afghans eux-mêmes de déterminer comment aller de l'avant et rendre la vie meilleure pour leur peuple. Les discussions étaient prévues en mars, mais retardées pendant 6 mois du fait de désaccords persistants autour d'un échange de prisonniers. Le dialogue inter-afghan est inclus dans un accord entre Washington et les talibans signé fin février qui avalise le départ des forces étrangères du pays d'ici mai 2021. On reste aux États-Unis où Derek Chauvin, le policier blanc accusé d'avoir tué George Floyd, doit comparaître ce vendredi pour la première fois en personne devant un tribunal de Minneapolis, plus de 3 mois après ce drame qui a suscité une mobilisation antiraciste historique aux États-Unis. Inculpé de meurtre, le policier est détenu dans une prison de l'État du Minnesota. 3 de ses collègues présents au moment du drame ont été inculpés pour complicité et remis en liberté sous caution en attendant leur procès. Des centaines de manifestants se sont rassemblés au petit matin devant le palais de justice de cette grande ville du Nord afin de réclamer justice pour George Floyd. Les pompiers américains luttent contre des incendies d'une ampleur sans précédent sur la côte ouest des États-Unis qui ont fait au moins 15 morts. Plus de 500 000 personnes ont été évacuées dans l'Oregon. Le point avec Nathalie Barche.
Dans l'Oregon, les incendies s'étendent sur plus de 365 000 hectares, un record. 5 villes ont été détruites, a indiqué la gouverneure Kate Brown. À Molalla, les policiers ont fait du porte-à-porte pour inciter les habitants à quitter les lieux. Une vingtaine d'incendies font rage en Californie, où le feu a consumé cette année plus de 12 500 km² et détruit plus de 360 bâtiments. Celui de la forêt de Mendocino est devenu le plus étendu de l'histoire dans cet état avec plus de 190 000 hectares calcinés. Près de Fresno, de nombreux habitants ont fui sous la menace du Creek Fire qui a brûlé plus de 70 000 hectares. Près de Los Angeles, le Bobcat Fire a dévasté plus de 9 000 hectares. Et plus de 200 000 hectares sont partis en fumée dans l'état de de Washington, plus au nord, à la frontière avec le Canada. Le gouverneur de cet État, Jay Inslee, et celui de Californie, Gavin Newsom, ont dénoncé les conséquences catastrophiques du changement climatique.
Au Liban, les pompiers ont éteint vendredi les dernières flammes de l'énorme incendie la veille au port de Beyrouth qui a décimé une partie de l'aide humanitaire acheminée au pays. Un nouvel incendie qui a ravivé le traumatisme d'une population déjà sous le choc après la grosse explosion du mois d'août. Le feu a pris jeudi dans un entrepôt utilisé par la Croix-Rouge internationale pour stocker des milliers de colis alimentaires et un demi-million de litres d'huile. L'explosion et l'incendie auront indéniablement un impact sur l'aide humanitaire du CICR, que ce soit au Liban ou en Syrie voisine, a averti la Croix-Rouge. En Grèce, environ un millier de demandeurs d'asile sans abri ont manifesté ce vendredi à Lesbos, réclamant leur départ de cette île grecque en mer Égée, où des incendies gigantesques ont détruit le camp de Moria, le plus grand d'Europe. D'importantes forces anti-émeutes escortaient les demandeurs d'asile. Les incendies de mardi et mercredi soir ont détruit le camp de Moria, où habitaient près de 12 700 personnes, soit 4 fois plus sa capacité.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mali, la durée de la transition, le profil de son président, sa feuille de route sont entre autres des sujets abordés dans les différents ateliers de la concertation nationale. Les représentants des militaires parlent de 2 ans pour la durée de la transition, avec un civil comme président. Les partis politiques et la société civile proposent 18 mois avec des civils pour gérer la transition en plus des militaires. Le point à Bamako avec Kassim Traoré.
C'est à travers 5 ateliers que les participants discutent, échangent et font des propositions sur la base des termes de référence. Mamadou Traoré, président du parti Union.
Aujourd'hui, nous sommes en une deuxième phase qui consiste à élaborer une charte de la transition qui va encadrer cette transition-là, sa durée, ses organes. Et nous pensons que hier, nous avons déjà déterminé les grands axes de la feuille de route. Je pense que ça va être un début de solution pour la sortie des crises au Mali.
Dans l'un des ateliers, les représentants des militaires ont proposé 2 ans comme durée de la transition avec un civil à sa tête. Les partis politiques et la société civile pensent que 18 mois seront suffisants. Le président d'honneur du parti PACP, Yen Samake, pense que les 12 mois de la CEDEAO sont raisonnables.
Dire que bon, 12 mois, c'est peu. Non, une transition est de nature à être courte. Et donc, il faudrait respecter les engagements, les 12 mois, pour que nous puissions rapidement retourner à la constitution.
Les femmes prennent part aux travaux avec des propositions sur la sécurité, l'école et la santé. Mais leur souci majeur est l'entente entre les Maliens. Astou Amina, participante.
Si on arrive à harmoniser tout cet amour que les uns ont et les autres ont pour ces pays, en réalisant l'unité, je pense que le Mali sera le pays le plus beau et le plus viable au monde.
La concertation nationale prend fin demain avec l'adoption de la feuille de route et la charte de la transition. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
4 soldats burkinabés ont été tués, 3 blessés dans la nuit de jeudi à vendredi dans une embuscade. Cela s'est passé dans le nord du Burkina Faso en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Selon une source sécuritaire citée par l'AFP, une patrouille militaire a été attaquée par des individus armés sur l'axe Gaskindé-Djibo. Les blessés ont été évacués à Djibo et des opérations de ratissage sont toujours en cours dans cette zone, a ajouté la même source. Au Burundi, 6 civils ont été tués, 3 blessés dans la nuit de jeudi à vendredi dans la province de Kayonza, dans le nord du pays, au cours d'une attaque attribuée à un groupe armé non identifié. 4 hommes et 2 enfants d'une 10aine d'années chacun figurent parmi les victimes. Ils ont été tués froidement alors que certains étaient dans un bar et d'autres à leur domicile, a indiqué un témoin sur place sous couvert d'anonymat. Cette attaque a lieu alors que des rumeurs persistantes sur l'existence d'une nouvelle rébellion active sur le sol burundais circulent depuis près d'un mois. En Tunisie, 6 personnes dont 3 enfants sont mortes en 6 jours d'intempéries sur plusieurs régions et à Tunis, la capitale. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Ces pluies torrentielles ont touché depuis le 5 septembre de nombreuses régions tunisiennes, de la région agricole dans le nord-ouest à la région touristique dans le centre-est. Le porte-parole de la protection civile, Maurice Tria, précise que 2 enfants sont morts à Monastir, ville balnéaire du centre-est, et 1 enfant a péri à Gendouba. Les 3 autres victimes sont un chauffeur de taxi à Tunis, un automobiliste à Sidi Bouzid, région marginalisée du centre-ouest, et un trentenaire dans la région côtière de Madia. Hier, après une nouvelle pluie diluvienne, l'eau est brièvement montée à plus d'un mètre dans plusieurs quartiers de Tunis, causant de nombreux dégâts dans des maisons, échoppes et même des hôpitaux. Ces inondations sont récurrentes. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Tunisiens ont dénoncé des infrastructures médiocres. Ils ont diffusé largement les images de tunnels inondés et de voitures sous les eaux, en exprimant leur colère face à ce qu'ils qualifient de mensonges des politiciens.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par John Lindon.
En RDC, le Fonds monétaire international conditionne la conclusion d'un programme triennal avec Kinshasa à 3 préalables. Il s'agit, selon le Financial Afrique, de l'élaboration d'un projet de budget 2021 réaliste, la restructuration de la Banque centrale, notamment la nomination des commissaires aux comptes et le renouvellement de son conseil d'administration. Enfin, la transparence dans le secteur minier impliquant la publication du rapport ITIE et la publication de tous les contrats miniers. Au Cameroun, le dernier exercice a été un bon cru pour le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunal, dont la plupart des indicateurs sont au vert. En 2019, la Banque des communes a réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 178 milliards de francs CFA, alors que les prévisions tablaient pour 155 milliards de recettes. L'économie kényane ne devrait pas connaître une croissance de plus de 2,5% cette année. C'est ce que déclare ce vendredi le ministre des Finances. Le taux de croissance projeté sera en baisse par rapport aux 5,4% de l'année dernière. L'économie kényane est menacée par les pertes d'emplois, une forte contraction du tourisme et une baisse des recettes publiques. Le secteur du tourisme, sur lequel de nombreux ménages dépendent, devrait se contracter de 18,7% cette année et de 9,1% l'année prochaine.
Présent la page des sports avec Bagasikoura. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le Wydad de Casablanca s'est séparé hier soir de son entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido. Annonce faite hier soir donc sur le compte Facebook du Wydad, 7 mois après son arrivée sur le banc du club marocain. La séparation s'est faite à l'amiable, a assuré le Wydad en remerciant le coach espagnol pour tout ce qu'il a apporté au club depuis son intronisation en février en remplacement du français Sébastien De Sabre. Finaliste de la dernière Ligue des champions africaines, le Wydad est l'un des clubs les plus titrés de la première division marocaine, la Botola. Il occupe la deuxième place du championnat avec 41 points derrière son grand rival, le Raja Casablanca. Mais avec un match de retard, le Waka affrontera en octobre le club égyptien Al Ahly en demi-finale de la Ligue des champions de la CAF. Juan Carlos Garrido, 51 ans, est notamment passé par le Villarreal, le Betis Séville, Al Ahly ou encore l'Étoile sportive du Sahel. Le jeune attaquant de Barcelone, Ansu Fati, s'est blessé à la hanche à l'entraînement vendredi et ne participera pas au match de préparation des Blaugranas samedi. C'est ce qu'a déclaré le club catalan. La durée de son indisponibilité dépendra de l'évolution de sa blessure, a ajouté le Barça. La Liga reprend ce week-end, mais le Barça ne disputera pas son premier match officiel contre Villarreal qu'à la fin du mois, le 26 ou le 27 septembre. Il affronte samedi Tarragone, un club de 3e division. Un match amical d'origine gambienne, Fati est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole à 17 ans et 311 jours en marquant face à l'Ukraine. Victoire 4-0. Dimanche en Ligue des Nations. En football toujours, la Première Ligue annonce avoir écrit au gouvernement britannique pour lui dire qu'elle ne participerait pas aux essais pour faire revenir les spectateurs dans les tribunes tant que la jauge restera à 1000 personnes par match. Le gouvernement britannique avait ouvert cet été la porte à un retour progressif des spectateurs à partir d'octobre, mais la remontée du nombre de contaminations au Covid-19 l'a incité à remettre en question cette échéance et à encadrer plus strictement les matchs tests, notamment en football, et à limiter à 1000 les spectateurs pouvant participer à ces événements.
Merci Bagassi. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. La justice belge a ordonné que les restes du corps de Patrice Emery Lumumba, le tout premier chef du gouvernement congolais, soient restitués à sa famille. Il s'agit, selon le juge d'instruction, d'une dent détenue par un commissaire belge décédé qui a reconnu avoir été parmi ceux qui avaient découpé Patrice Lumumba après l'avoir tué. Il reste à la Cour fédérale d'annoncer la date de la remise. Eddie Isango a joint à Kinshasa l'une des filles de Lumumba, l'ancienne ministre Juliana Lumumba.
Dans la famille, nous en sommes très satisfaits et nous estimons que c'est une victoire parce que après 60 ans, les restes de Patrice Emery Lumumba finalement vont revenir sur la terre de ses ancêtres, la terre pour laquelle il s'est battu pour son indépendance et pour la dignité de l'homme africain. Et ça sera aussi l'occasion qu'on clôture enfin un deuil et qu'on lui rende hommage au niveau de la nation congolaise.
Vous avez saisi la justice belge à ces sujets. Mais nous apprenons qu'il faudrait attendre une décision de la Cour fédérale. Où en est-on exactement?
La décision de justice a été prise, mais nous n'avons pas encore eu la décision officiellement. Mais ce que je peux vous dire par les autorités belges ici à Kinshasa, l'ambassadeur de Belgique ici à Kinshasa m'a envoyé une lettre en disant que cela est vrai et nous attendons qu'on nous envoie la décision judiciaire de manière officielle.
Le juge d'instruction parle d'une seule partie du corps qui vous sera restituée. Il précise qu'il s'agit d'une dent. Comment allez-vous identifier que c'était bien la dent de votre père? Allez-vous exiger un test ADN pour cela?
Nous savons que le commissaire qui était là sur les lieux de l'assassinat et que il avait fait cette œuvre macabre et abjecte de découper mon père avait exhibé la dent en disant qu'il gardait une dent de Lumumba dans une interview. Et c'est cette dent-là, parce que le monsieur est décédé et que c'est sa fille qui a dit qu'elle gardait cette dent, qui a été réquisitionnée par le gouvernement belge. Donc nous savons que cela est la dent de mon père et c'est comme ça que nous avons fait cette requête.
Si justice doit être faite, que demanderiez-vous en plus du retour des reliques de la dépouille de votre père?
D'abord, il faudrait que cela soit signifié officiellement. Et c'est vrai que ce sont les reliques de mon père, de notre père, nous la famille Lumumba. Mais Lumumba n'appartient pas qu'à sa famille. Il appartient à la nation et il a été déclaré héros national dans ce pays. Le 17 janvier est un jour férié. Donc nous sommes rentrer en pourparler, nous allons rentrer en pourparler avec les autorités congolaises ainsi que les autorités belges pour voir dans quelle mesure et dans quelles conditions il va retourner ici et qu'est-ce que nous devons faire. Parce que le 17 janvier prochain sera la date de 60 ans de sa mort et comment allons-nous inhumer notre héros national. C'est de cela qu'il s'agit pour le moment et le plus important. Qu'on fasse notre devoir d'enfant d'inhumer notre père dignement.
C'était Juliana Lumumba, fille de Patrice Lumumba. Alors, qui était Patrice Lumumba, le tout premier ministre congolais assassiné dans des conditions troubles après l'indépendance? Eddie Sango a joint à Kinshasa le professeur d'histoire Isidore Ndaïuel Nziem.
Patrice Emery Lumumba, c'est vraiment l'icône de l'indépendance nationale. La population congolaise avait décidé dès 1961 de le considérer comme le héros national, même si c'est des années après, seulement en 1966, le 30 juin 1966, que le pouvoir en place, Mobutu en l'occurrence, va le proclamer héros national. Mais en réalité, cette proclamation date de 1961, déjà par la population et notamment par l'Union générale des étudiants congolais, qui était l'instance intellectuelle, on va dire, de l'époque, regroupant les jeunes, la jeunesse universitaire congolaise dans le pays et dans la diaspora. Ce geste est d'abord un certain aveu, parce que je dois rappeler que Lumumba est mort au Congo, au Katanga. Mais le fait que sa danse se retrouve en Belgique, c'est quelque part un aveu et une reconnaissance d'une faute qui a été commise. Et donc nous avons là la confirmation de l'identité du commanditaire.
Pourquoi Patrice Emery Lumumba était-il important pour la RDC et même pour l'Afrique?
Patrice Emery Lumumba a été le héros courageux qui, à l'indépendance, n'a accepté aucune compromission et a exigé une indépendance totale. Et il a exigé dans des termes très forts le jour même à la cérémonie même solennelle de l'indépendance, au point même de bousculer le protocole quelque peu colonial et néocolonial qui était en place. Et le fait qu'il ait été un des tout premiers victimes des dirigeants africains qui aient insisté sur l'indépendance a fait que véritablement il soit devenu une icône non seulement pour le Congo mais également pour l'Afrique. Parce que je me rappelle d'ailleurs dans une étude de Jean-Pierre Ndiaye sur les héros africains, à l'époque de la guerre froide, Lumumba était véritablement le premier qui était publicité par les élites africaine, par les populations africaines comme étant le héros et en même temps la victime expiatoire de l'indépendance africaine.
Qu'est-ce que l'on sait de sa disparition aujourd'hui?
Il y a eu une coalition internationale passant à la fois par la Belgique, se décidant de son élimination. Cette coalition internationale des forces occidentales ont cherché des boucs émissaires locaux et ces boucs émissaires ont été effectivement des hommes politiques congolais de Kinshasa, mais des exécuteurs même au Katanga. Et voilà pourquoi, pendant très longtemps, la mort de Lumumba a été mise au compte d'une guerre interne entre Congolais ou même entre les Katangais et les autres Congolais.
C'était Isidore Ndaiwel Nziem, professeur d'histoire à l'université de Kinshasa et de Laval au Canada.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Les États-Unis ont commémoré aujourd'hui le 19e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, même si ces commémorations sont censées être dépourvues de rhétorique politicienne et dédiées à l'hommage aux victimes des attentats. La polarisation du pays et la campagne présidentielle semblent troubler l'esprit d'unité censé imprégner cette mémoire. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique. Il s'agit de Herman Cohen.
C'est toujours très difficile parce qu'il y avait quelque chose comme 3000 personnes américaines et étrangères qui sont décédés dans cette attaque. Il y a beaucoup de familles dans plusieurs pays, surtout en Amérique. On pense à ça tout le temps. Et c'est pourquoi ils font des cérémonies solennelles chaque année. Donc c'est toujours très, très fort dans nos mémoires.
On a vu les Américains unifiés le jour de cette tragédie. Aujourd'hui, les États-Unis font face à une crise sanitaire sans précédent. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Est-ce que cette unité, on le sent encore aujourd'hui?
Oui, il y a des problèmes. Il y a le pays est assez divisé. Je crois que la situation politique est très partagée maintenant en deux camps. C'est pas une situation très heureuse.
Malgré qu'il y ait beaucoup de divisions, au moins sur le plan de la lutte contre le terrorisme, là, il n'y a pas de divergence. Bin Laden a été tué, Baghdadi a été tué et beaucoup d'autres terroristes.
Pour la lutte contre le terrorisme, nous avons toujours des militaires américains dans le Sahel et aussi à Djibouti pour lutter contre Al-Shabaab en Somalie. Donc, pour la question du terrorisme, nous sommes très unifiés. Et c'est seulement sur le plan intérieur que nous sommes. Mais ce n'est pas une surprise parce qu'il y a une élection en novembre. Il y a des problèmes à la veille des élections, mais cette fois-ci, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Je crois que notre président est plutôt quelqu'un qui divise ou qui n'unifie pas. Je suis très navré de le dire.
Et que devrait faire le prochain président, si c'est le président Trump qui est réélu ou si c'est Biden qui est élu?
Il faut réparer tout ça. Il faut recommencer à lutter contre cette pandémie. Les médecins, les hommes de science disent que ce n'est pas du tout fini. Donc, le prochain président, soit Trump, soit Biden, il faut donner sa première priorité, lutter contre cette pandémie.
Et les Américains, de leur côté, ce n'est pas seulement le rôle du président, mais il y a aussi des Américains ou d'autres leaders au niveau de l'Église, au niveau des communautés. Quelle pourrait être aussi leur part à jouer?
Oh, à mon avis, c'est plus important que le rôle du président, parce que la lutte contre la pandémie, ça se fait dans chaque communauté, dans chaque ville.
Et en termes de réconciliation?
Oh oui, je crois que le prochain président va le faire ce soir. J'ai pas peur. Je crois qu'une fois que l'élection est passée, on n'a plus besoin d'attaquer les uns et les autres. Et je crois que le pays va se réunifier.
C'était l'ancien diplomate américain Herman Cohen.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
À New York, il est devenu difficile pour les entreprises de déménagement de répondre aux nombreuses sollicitations des habitants. Le nombre d'appartements vides à louer a grimpé à plus de 65 000. Le défi pour les propriétaires est de trouver de nouveaux locataires et la course est lancée, comme l'illustre ce reportage d'Anna Nelson. Et c'est un récit de John Lyndon.
C'est devenu une scène banale dans certaines rues de Manhattan, des camions et des cartons appartenant à des personnes qui ont pris la décision de quitter New York pour de bon. Contrairement à de nombreuses autres entreprises qui subissent les effets de la crise sanitaire, les entreprises de déménagement sont surchargées au point de refuser des clients. Nancy Zafrani, directrice générale House Moving and Storage.
So many people are moving to Florida, California and Texas.
Ainsi, beaucoup de gens déménagent en Floride, en Californie et au Texas. Ce sont les trois destinations longue distance que nous avons. Il y a aussi des locaux, relativement locaux, qui déménagent dans le New Jersey, le Connecticut, Long Island, hors de la ville, dans la banlieue.
La ville de New York a maintenant plus d'entreprises fermées, les wagons propres du métro sont presque vides et la violence armée est en augmentation. Beaucoup partent dans des États voisins comme le New Jersey où les prix de logement augmentent. Kiriel Kurevich, agent immobilier.
L'une des choses que tout le monde mentionne ces jours-ci est qu'ils ont besoin d'un espace de bureau dans leur maison. C'est un luxe hors de portée dans les appartements de New York. Ainsi, les gens recherchent une pièce supplémentaire, un grenier ou un sous-sol pouvant être converti en bureau et utilisé pour le travail à distance. Beaucoup de gens le demandent.
Evgenia Lopatnik, résidente du New Jersey.
Notre garderie a fermé à la mi-mars. Nous avons commencé à travailler sur la même table à manger et je travaille avec des enfants à distance sur Zoom. J'ai besoin d'un silence complet parce que je chante avec eux, je leur raconte des histoires. Mais au lieu de cela, j'ai la présence de mon mari juste à côté de moi avec des appels interminables.
Après 4 mois de confinement dans un petit appartement en New York avec un bébé, ils ont pris la décision de déménager dans une maison spacieuse du New Jersey qui leur permet d'avoir une piscine et 2 bureaux. Ils disent aimer la ville, mais craignent que la pandémie ne se termine bientôt. Evgenia Lovanik, résidente du New Jersey.
L'idée que nous pourrions passer une autre année dans un confinement était comme de la folie. Donc, je préfère trouver des moyens de me rendre à New York tous les jours pour me rendre au travail plutôt que de risquer de passer une autre année enfermée dans un petit appartement sans balcon.
Beaucoup de leurs amis ont fait la même chose. Le nombre d'appartements inoccupés à New York a atteint un niveau record au cours de la dernière décennie. Et bien que les autorités de la ville essaient de convaincre les gens de rester ou de revenir, peu l'ont fait jusqu'à présent.
De cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Michel Joseph, Georges-Léonard Sagnon, Joselle Morissin et Lionel Gaïma. À la présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.